envie de prendre l'air jusqu'à midi. C'est l'air de jeu.
Bon, ben, je me posais la question de où était ma collègue aujourd'hui. Et ben, j'ai trouvé la réponse. Elle est du côté de Cressier.
Bonjour Florian et un grand bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'air de jeu. Comme vous l'avez dit, Florian, on a installé notre table, notre matériel sur la place du village de Cressier.
Le matos du camping.
Exactement. Et puis, ben, on remercie un sympathique monsieur qui nous a offert le café. On va vraiment passer une chouette matinée et merci à vous d'être avec nous en ce dimanche matin. Je suis sûre que vous allez passer un très très bon moment puisqu'on a un grand monsieur avec nous. Hein. Alors c'est un grand monsieur au sens propre comme au sens figuré. C'est Jean-Pierre Heger, un nom bien connu dans le milieu sportif européen, suisse également puisqu'il a été coach. Il a plusieurs casquettes. On va bien sûr faire plus ample connaissance avec Jean-Pierre Heger au travers de ses performances à lui, mais aussi les champions qu'il a formés et surtout les personnes qui ont réussi à remporter des médailles d'or. Enfin bref, comme je l'ai dit, hein, c'est une matinée musclée et sportive qui vous attend sur RTN. Alors tout d'abord, ben, bonjour Jean-Pierre, ça me fait vraiment plaisir et c'est un honneur pour nous que de vous recevoir ce matin. Et d'ailleurs, toutes les personnes, alors que ce soit sur ma page Facebook, que ce soit en dehors, tout le monde m'a dit « Mais Claire, tu verras, c'est un homme merveilleux, d'une grande gentillesse. » Franchement, c'est vrai, vous êtes adorable, si vous me passez l'expression.
Merci bien, c'est une présentation merveilleuse. J'ai plus l'habitude, mais j'aimerais saluer aussi tous les auditrices et auditeurs de RTN, les Neuchâtelois. Vous savez que c'est mon berceau culturel, même si j'habite à quelques kilomètres maintenant du canton, à quelques mètres d'ici presque pratiquement. Je suis toujours fidèle à Neuchâtel et à tout ce que Neuchâtel représente dans ma vie. Depuis le berceau de mon enfance à La Coudre, je suis un enfant de La Coudre et fier de l'être, un quartier dans lequel j'ai tout trouvé, les engrais, le terrain, pour pouvoir bâtir une vie passionnante autour du sport.
Et justement, on va l'évoquer, cette vie passionnante hein, dans le sport avec les grands champions que vous avez formés. Et puis, permettez-moi quand même de vous souhaiter un bon anniversaire parce que c'était samedi dernier. Alors, comme on dit, hein, mieux vaut tard que jamais.
Oui, je profite encore de la septantaine maintenant. Je vais passer à une décade un peu plus importante l'année prochaine. Mais ça fait plaisir quand même. Merci, merci.
Alors, on va bien sûr évoquer votre carrière, mais comme je l'ai dit, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes entraîneur, vous êtes coach. Alors, parlez-nous un petit peu de votre parcours.
Oui, disons, j'ai eu une formation de pédagogue, d'instituteur et de maître d'éducation physique. Deux métiers que j'ai pratiqués peu d'années, c'est vrai, à Neuchâtel d'abord, dans les écoles neuchâteloises, à l'école primaire de Colombier, par exemple, et puis à Neuchâtel, à l'école secondaire régionale, où j'étais pendant une dizaine d'années responsable des sports. Ensuite, j'ai été appelé par Macolin, à l'école fédérale de sport, qui m'a nommé comme responsable de la branche sportive athlétisme dans le mouvement jeunesse et sport. Donc, en fait, mon travail consistait davantage à entraîner des entraîneurs, à former des entraîneurs, plutôt qu'à entraîner des athlètes. Parallèlement à ce développement, j'ai fait la compétition, bien sûr, jusqu'à 37 ans. J'ai réalisé mon rêve de gosse à 33 ans aux Jeux Olympiques à Montréal en 1976. En 80, je me suis réhabilité d'une performance plutôt modeste 4 ans avant aux Jeux Olympiques en terminant en finale. Et là, j'ai terminé aussi ma carrière d'athlète pour commencer une carrière encore plus intéressante, celle qui me correspondait mieux encore, c'est celle d'entraîneur.
Alors, il faut dire que quand vous avez pratiqué l'athlétisme, c'était dans une spécialité bien précise, le lancer du poids. Hein.
Alors, il faut dire que je partais en fait pour faire du décathlon. La discipline reine de l'athlétisme, c'est le décathlon, l'homme parfait, hein, le décathlonien. Par contre, j'ai vu très vite que les conditions pour moi d'entraînement, avec mon travail, la création d'une famille aussi à ce moment-là, ne me donnait pas le temps de préparer un décathlon et j'avoue aussi ne pas avoir eu vraiment les compétences pour pouvoir faire ces 10 disciplines à un niveau satisfaisant.
Ça, c'est assez incroyable. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelles sont les disciplines de décathlon ?
Écoutez, ça commence par le 100 mètres, le saut en longueur, le lancement du poids, le saut en hauteur, le 400 mètres la première journée, et ensuite la deuxième journée, le 110 mètres, le lancer du disque, le saut à la perche, le lancer du javelot et finalement le 1500 mètres. Donc vous voyez qu'il y a du travail en deux jours et là, je dois dire, la consécration du décathlonien, c'est pour moi véritablement l'athlète dans le sens le plus...
C'est vraiment la récompense suprême.
C'est la récompense suprême. Moi, je me suis spécialisé dans les disciplines qui me conviaient le mieux, c'était les lancers. D'abord le lancer du poids et du disque. J'ai jonglé longtemps entre ces deux disciplines, même si je préférais lancer le disque qui partait plus loin. J'étais peut-être sur le plan, en tout cas international, plus doué pour le poids. En tout cas, les performances étaient plus proches des limites pour les Jeux Olympiques, par exemple, ce qui m'a en fait entraîné à me décider de lancer le poids. Parce qu'en fait, l'instrument n'importait peu pour moi, c'était vivre ces Jeux Olympiques. C'était ça mon idée. Et puis j'ai pu le faire deux fois en tant qu'athlète et 6 ou 7 fois en tant qu'entraîneur. Donc là, j'étais comblé de ce côté-là.
Oui, on va en revenir avec les autres athlètes avec lesquels vous avez pu aller aux Jeux Olympiques et qui ont ramené des médailles, hein, des médailles d'or aussi.
L'air de jeu jusqu'à midi avec Claire et Florian.
On vous retrouve du côté de Crécy. Vous pouvez nous dire exactement où est-ce que vous êtes, Claire, comme ça.
Oui, alors on est sur la place du village. On est sur la place du village. On est bien installé. Et puis, on a déjà des gens qui sont là, qui vont venir jouer avec nous. Alors, n'hésitez pas à venir nous retrouver. Vous avez envie de passer un moment convivial avec nous et surtout de faire connaissance de cette figure emblématique hein, du canton de Neuchâtel et qui a formé de sacrés noms du sport, Jean-Pierre Heger, qui nous fait l'amitié de partager cette matinée avec nous ce matin et ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de l'avoir avec nous ce matin. Alors, on a vu votre carrière, ensuite donc vous avez été entraîneur pour les entraîneurs et puis vous avez fait du basket aussi si je ne m'abuse.
Oui, alors ça c'est une vieille histoire, j'ai joué à Neuchâtel basket, c'était pas encore Union à cette époque mais c'est devenu Union par la suite et j'ai joué entre... entre l'âge de 20 ans et l'âge de 30 ans dans l'équipe de Neuchâtel en Ligue B en fait jusqu'à l'ascension en Ligue A et à ce moment-là j'ai dû choisir entre l'athlétisme et le basket, c'était plus possible et puis comme mon but était d'aller au jeu c'est l'athlétisme que j'ai choisi, là j'étais devant mes responsabilités propres en basket, j'aurais peut-être attendu longtemps avant d'aller avec une équipe suisse au jeu. Puis d'ailleurs, je n'avais pas la compétence de basketteur pour le faire. Mais rassurez-vous, et comme par hasard, j'ai eu l'occasion, en basket, avec l'équipe de France, en tant que préparateur physique, d'accompagner cette équipe, ce souvenir extraordinaire en 2000, où nous avons, à la surprise générale, remporté la médaille d'argent. En perdant finalement de relativement peu devant une équipe d'Amérique pas très performante cette année-là, il faut l'avouer, mais quand même, c'était les USA, donc il fallait quand même le faire.
Et c'était à quelle occasion cette médaille d'argent ?
C'était à l'occasion des Jeux Olympiques de Sydney en 2000.
Ah ouais, sacré souvenir ça hein ?
Ça, ce sont les meilleurs souvenirs. Et si je n'ai pas fait les médailles, sinon sur le plan helvétique, naturellement, j'en aurais eu beaucoup de récompenses par mes athlètes qui, eux, m'en ont donné beaucoup sur le plan international, voire championnat d'Europe, championnat du monde et Jeux Olympiques.
Alors, j'imagine que ça demande quand même pas mal de sacrifices du côté familial hein, quand on fait de telles performances. C'est pas toujours évident. Et puis pour vous aussi, de toujours s'entraîner, c'est pas facile. Comment vous avez réussi à allier les deux choses ?
Vous savez, on réussit quelquefois au forceps. Hein. C'est pas toujours facile, mais disons, fondamentalement, j'étais quand même dans une famille sportive. Mes filles aimaient bien le sport, on en fait aussi. Ma femme aussi pratique. Donc j'ai été toujours soutenu, même si quelquefois, c'est vrai, les absences étaient longues. Mais j'entends, quand on veut, quand on reste dans le dialogue, on arrive presque toujours à résoudre ces problèmes. Ça a été le cas pour nous, heureusement.
Oui, heureusement. Alors, on verra qu'il y a quand même des sports où vous avez apporté votre touche. Et c'est grâce à vous que ces personnes ont réussi de magnifiques performances. Alors, entraîneur, pédagogue également, et puis motiveur.
Motivateur. Oui, motivateur. Vous savez, il y a dans ce métier, il y a deux métiers en un. L'entraîneur, c'est l'expert, c'est le technicien. C'est celui qui va apporter les stratégies, les méthodes d'entraînement, la technique, choisir les outils de travail. Ça, c'est l'entraîneur. Pour moi, le coach, c'est celui qui accompagne, je dirais, humainement la personne. C'est le conseiller, c'est celui qui booste, c'est celui qui freine. Et ces deux rôles sont aussi importants l'un que l'autre. Vous allez rire, mais en écrivant mon livre...
Oui, on va d'ailleurs en parler de votre livre.
J'ai l'éditeur, lorsque je lui ai donné le manuscrit, m'a dit « Mais vous avez oublié une chose très importante, c'est des témoignages des personnes ou des équipes que vous avez entraînées. Ce serait intéressant quand même de savoir comment ils vous ont vécu. » Alors on a fait cet exercice de demander à quelques personnes, il y a en tout cas une dizaine de témoignages qui me sont revenus. Et ça a été pour moi comme une sorte d'évaluation de mon impact dans ces deux rôles. Et je dois dire, aujourd'hui, j'étais surpris. Je croyais souvent que mon travail, c'était la technique, c'était les rendre plus forts, c'était les rendre plus performants techniquement. Mais je pense que ce qui reste de tout ça, c'est le coaching. C'est la proximité humaine. C'est la collaboration, c'est les moments de bagarre qu'on a eus. C'est vraiment la relation interpersonnelle qui, à mon avis, est au centre de tout ce qu'on fait en général. On attribue toujours à la technique tous les bienfaits, mais en réalité, la réussite, elle est plus liée à la qualité humaine, c'est-à-dire au savoir-être, que seulement à un savoir ou un savoir-être.
C'est un petit peu comme dans tout, il faut une certaine complicité hein, entre les personnes.
Oui, il faut une grande complicité. Elle doit être positive. Elle doit toujours être orientée sur nos objectifs communs. Mais en général, quand on a des valeurs communes, on peut plus facilement remplir ou réaliser un objectif commun.
Voilà, puis avancer. Florian, vous pouvez nous envoyer le défi. Voici ce qu'on va réserver aux auditeurs.
L'ère de jeu, le défi.
Et oui, notre jeu du défi. Alors, on va laisser le soin à Jean-Pierre Heger de nous annoncer l'objet qu'il faudra nous apporter ce matin ici sur la place du village de Cressier. Si vous êtes la première personne à nous apporter cet objet, eh bien, vous gagnerez une carte cadeau Manor. Alors, quel objet vous aimeriez voir ici sur cette place du village, mais en rapport avec votre sport, hein, Jean-Pierre.
Je ne pouvais pas faire autrement. Je me suis dit un objet qui va bien dans la main, qui est agréable, peut-être des fois un peu lourd, trop lourd. J'ai pensé au boulet, mais vous savez qu'un boulet pour les actifs, c'est 7 kilos et quart. Donc, vous faire amener un boulet de 7 kilos et quart, c'est peut-être un peu difficile un dimanche. Alors, on a pensé, avec Claire, qu'il serait plus judicieux d'amener une boule de pétanque. Alors, celui ou celle qui amènera la boule de pétanque la plus originale, eh bien, c'est la personne qui aura gagné.
Allez chercher dans vos affaires de jardin une boule de pétanque, amenez-nous-la ici et puis vous recevrez donc cette carte cadeau Manor. À tout à l'heure.
Non, c'est pas fini encore. Je dois vous lancer le défi.
Ah oui, maintenant c'est le défi de Florian. Alors attention, moi je m'attends à tout. Hein.
Alors non.
Après avoir fait de la poterie, après avoir mis du charbon dans
une locomotive.
Train, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai été sur le lac la semaine passée avec le bateau de sauvetage. Qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui, Florian ?
Bah pour parfaire le défi que vous lancez aux auditeurs, à partir du moment où ils apportent un objet, alors s'il y en a un qui a quand même une boule de 7,5 kg, il peut quand même l'amener, hein, même si là, ça va faire un peu les muscles. Mais Jean-Pierre, vous allez devoir apprendre à Claire le lancer, justement, de cette boule, comme vous l'aviez fait en tant que coach à l'époque. Je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué de former Claire dans ce job.
Non, non, pas de problème, pas de problème.
Et puis vous prenez une belle photo. Prenez
une belle photo qui illustre bien. Est-ce que je dois faire la technique de rotation ou bien de translation ?
Alors écoutez, vous faites la technique de rotation ou translation avec Claire. Ça, vous devrez peut-être vous adapter un petit peu pour la technique de rotation, mais la translation, ça va aller.
Bon, alors ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, chers amis, mais il faut absolument nous amener une boule de pétanque afin qu'on puisse réaliser le défi lancé par Florian.
L'ère de jeu, rediffusion.
Assurez-vous, Claire, vous ne faites pas peur comme les dragons de Game of Thrones.
Non, non, mais j'espère pas qu'on fasse peur. Mais en tout cas, là, on est en train de feuilleter l'album souvenir de notre invité Jean-Pierre Heger. Alors, il y a des photos qui remontent à pas mal d'années. C'est assez incroyable. Et nous allons jouer avec Rosemary. Bonjour Rosemary, comment ça va ?
Bonjour, bien, merci.
Est-ce que vous avez pratiqué ou est-ce que vous pratiquez un sport ?
Juste du vélo, de la marche.
Mais c'est déjà pas mal.
Un peu de natation.
Vous aimez nager par tous les temps ?
Non.
Parce que moi, je vais vous dire que hors antenne, mais d'ailleurs, on lui tendra le micro tout à l'heure à Béatrice, qui est l'épouse de Jean-Pierre. Alors, elle m'a avoué qu'elle nageait tous les jours, toute l'année, par n'importe quel temps. Moi, je trouve qu'elle est bien courageuse. Vous aimez jouer, Rosemary ?
Oui, oui.
Ça tombe bien. Est-ce qu'il y a un sportif que vous appréciez ?
Je ne sais pas quoi dire, Federer, voilà.
Oui, alors c'est un grand nom du sport, hein, Roger Federer. Eh bien, Florian, on va tout de suite jouer avec Rosemary à ce jeu.
L'ère de jeu, le portrait chinois.
Le portrait chinois. Rosemary, je vais vous donner des indices. Ils sont au nombre de 3 sur la base de 6 GT. Et il faut découvrir la personne qui se cache derrière ce portrait. Vous êtes prête ?
Oui.
Alors, mais à mon avis, rien que le premier, vous allez tout de suite trouver. Si j'étais un sport, je serais le saut à ski. Si j'étais un surnom, je serais Harry Potter. Si j'étais les Jeux Olympiques d'hiver, je serais ceux de Salt Lake City en 2002.
Alors j'ai regardé les Jeux de Salt Lake City en 2002. J'étais accro parce qu'il y a aussi un de mes cousins qui a participé.
Ah ouais, c'est qui ?
4, Massimiliano Rota.
Ok.
Oui, avec l'équipe de Rome. Oui, oui. Alors j'ai regardé tous les Jeux. Et puis j'ai vu que c'était Simon Hamann.
Eh ben bravo.
Ouais, bravo. Hein.
Bravo Rosemary, vous méritez la récompense. On vous donnera le cadeau tout à l'heure. Mais là, je me tourne vers vous, Jean-Pierre Heger, parce que ben voilà, Simon Hamann que vous avez entraîné. Et c'est quand même grâce à vous ces 2 médailles d'or à ces Jeux Olympiques en 2002.
Moi, c'est ce qu'il a dit, c'est ce que Simon a dit, hein. C'est pas ce que je dis moi. Et vous savez,
mais vous êtes trop modeste.
Le saut à ski dépend de tellement de facteurs que personne ne peut dire c'est grâce à moi. Mais c'est vrai que Simon avait un gros déficit au point de vue détente à ce moment-là. On croyait que c'était un problème mental à l'origine, et puis le préparateur mental est venu à Macolin un jour et a dit au responsable du sport d'élite en Suisse, c'est Jean-Pierre qui doit s'en occuper parce que, à mon avis, son problème, il est plus physique que mental. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec cette équipe à Einsiedeln, dans leur centre d'entraînement. Et j'ai rencontré une équipe vraiment sensationnelle. C'est un de mes très bons souvenirs. Et là, j'étais en fait l'entraîneur de l'entraîneur. Et du staff, hein, et des athlètes de temps en temps. J'allais régulièrement les voir pour leur donner de nouveaux plans d'entraînement. Et là, il y a eu une explosion assez rapide. Donc Simon et Andreas Kutel et Frey Holtz aussi, notre roman, dans le coup. Donc ce sont des athlètes qui ont fait un saut, un bond en avant, et qui ont remporté, c'est vrai, à la surprise générale, surtout Simon qui s'était cassé la figure peu de temps avant, il faut le savoir, hein. Mais assez sérieusement, a pu se relever très vite et gagner ses 2 médailles à South Lake City, effectivement.
Alors, c'est vrai que vous avez un peu touché dans différents types de sports. Alors, après le, comme on l'a dit, l'athlétisme, il y a eu le saut à ski, il y en a bien d'autres également qu'on va évoquer. Mais qu'est-ce que vous gardez comme souvenir ou anecdote de cette participation aux Jeux Olympiques ?
Vous savez, c'est pas la question de participation au jeu. La raison pour laquelle je me suis occupé de différents sports, elle est très simple. J'étais à ce moment-là le responsable de la formation des entraîneurs à Montcolin, donc des sportifs d'élite, des entraîneurs nationaux, c'est-à-dire des entraîneurs qui s'occupent de toutes les équipes nationales, tous sports confondus. Et vous savez, à cette époque, le préparateur physique idéal, c'était l'entraîneur d'athlétisme. C'est lui qui a les clés pour être plus fort, plus rapide, plus de détente, plus puissant, etc. Et ces entraîneurs qui étaient sur place, qui venaient dans mes cours, évidemment, on commençait à me demander « qu'est-ce que tu ferais chez nous ?» etc. etc. Et j'ai pris ce défi avec chacun d'entre eux pour essayer de trouver les paramètres les plus importants à développer, ce qu'on a fait, et puis avec succès. Et j'ai vu finalement que, vous savez, il suffit de connaître un peu l'anatomie fonctionnelle pour savoir comment ces gens fonctionnent dans différents sports. L'un a besoin de plus d'endurance, l'autre de plus de vitesse, l'autre un peu plus de puissance que de force ou de force que de vitesse. Et puis après, c'est simplement de trouver les ingrédients en termes de stimuli d'entraînement pour pouvoir progresser. Donc ça, c'est un métier vraiment passionnant. C'est ce qui a fait de moi un peu un préparateur physique all-rounder. Mais je dois dire, je ne regrette pas et je referai la même chose, je crois.
Ben, j'imagine bien. En tout cas, on vous rappelle. Ah, je vois. Oh, voilà, il y a une boule de pétanque qui est arrivée. Donc, on va pouvoir réaliser le défi et on va faire connaissance avec la personne qui nous l'a apporté. Ah là là, ça va être compliqué, non ?
Jean-Pierre, si jamais il y a un saut à ski du côté du Loc, là, au Combe, non loin de chez Claire.
Alors, il n'existe plus, hein, il n'existe plus le tremplin.
Ah, ils l'ont démonté, quel dommage.
Non, il n'existe plus le tremplin au Loc, là.
Ça aurait été un bon défi pour vous cet hiver.
C'était Francis Perret qui sautait sur ce tremplin. Oui, c'est vieux, ça. C'est vieux, tout ça.
Stéphane Escher, bon, pour la suite de la musique, et on vous retrouve tout à l'heure avec justement cette boule de pétanque.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Alors, tu tires ou te pointes, Claire? Elle a reçu sa boule. Alors, j'aime bien parce qu'en antenne, elle a dit c'est lourd, 500 grammes qu'elle fait la boule.
Oui, alors, c'est.
Ça sera
c'est
pour le lancer, hein, je pensais tout à l'heure.
Alors, on a avec nous Raymond. Bonjour Raymond, vous habitez où?
Bonjour, j'habite Cressier.
Et donc, vous êtes venu nous retrouver ce matin, ça nous fait plaisir. Est-ce que vous connaissiez Jean-Pierre Heger?
Oui, je le connaissais. Je l'ai vu souvent, je l'ai vu à la Neuville, parce que bien sûr, il y a la fête des vendanges à Neuville. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, comment ça s'appelle, la culotte, là.
La lutte?
La lutte, vous étiez aussi là. Et j'étais là tout le temps là-bas. Non, je le connais bien, de vue.
Est-ce que vous faisiez aussi du sport?
Oui, alors à l'époque, oui, j'avais beaucoup de sport, j'avais de l'athlétisme.
Ah oui, dans quelle discipline?
C'était 5000 mètres et le 200 mètres.
D'accord, donc pas lancer de poids?
Non, pas lancer de poids.
Par contre, vous jouez à la pétanque?
Du football aussi. La pétanque, oui, j'en ai fait comme ça pour s'amuser. Non, je suis un peu trop nerveux pour faire ça, parce que j'aime bien gagner. Alors, quand ça commence à aller comme ça...
Parce que donc, vous l'aurez compris, hein, chers auditeurs, c'est Raymond qui est arrivé carrément avec 6 boules de pétanque. On va même pouvoir jouer à la pétanque, hein, en plus de faire ce lancer du boulet. On dit lancer du boulet ou lancer du poids?
C'est du poids, en principe, du poids.
Oui, parce que le boulet...
Ça fait un peu boulet de canon, c'est pour ça.
Donc, bravo Raymond, hein, vous remportez cette carte cadeau Manor, et puis vous allez rester avec nous.
Mais bien sûr, jusqu'à la fin de l'émission.
Alors, comme il y en a 6, après on pourra peut-être faire une partie de pétanque. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Pierre Heger. Elle pèse 720 grammes?
720 grammes, oui.
Alors ça va aller pour réaliser le défi?
Oui, je pense.
Alors, pour le lancer du poids, c'est quoi un peu la technique? Parce que, il faut... Je suis en train de mimer, mais vous ne me voyez pas.
Il y a en fait une technique qu'on appelle la technique de translation.
C'est quoi?
Donc de déplacement dans le cercle sur un demi-tour, c'est-à-dire vous partez dos au lancer et puis vous lancez le poids donc en faisant 180 degrés de mouvement. Et la technique de rotation, quant à elle, qui a été calquée sur le modèle du disque, du lancer du disque, c'est un tour et demi. Donc on fait un tour sur soi plus ce demi puisqu'on part aussi d'eau lancée.
Et puis alors, quand... ah oui, ça c'est le lancer du marteau.
Le lancer du marteau, c'est tout autre chose. Hein. Ça, c'est... On lance à deux mains, en fait, en tournant trois ou quatre tours, en général, dans le cercle avant de lancer.
C'est quoi le plus difficile ? C'est le lancer du poids ou le lancer du marteau ?
Beaucoup disent c'est le lancer du marteau, parce qu'en fait, c'est vrai que le mouvement dure plus longtemps. Ça, c'est sûr. Mais d'autres disent c'est le lancer du poids, parce que le mouvement se passe le plus vite. Et il faut être juste. Quand vous avez un mouvement qui se fait en l'espace d'une seconde, vous devez être placé juste. Vous ne pouvez pas vous permettre la moindre erreur. Et c'est la raison pour laquelle certains entraîneurs disent que c'est le poids le plus compliqué et d'autres disent que c'est le marteau.
Et quel est le poids justement du marteau ?
Alors la même chose que le lancer du poids. Le marteau, c'est 7 écarts. Pour les femmes, le 4 kg. Et chez les lanceurs de poids, c'est la même chose, c'est 4 kg pour les femmes et 7 kg écart pour les hommes.
Et d'ailleurs, il y a une femme que vous avez coachée, c'est Valérie Adams, qui elle aussi, aux Jeux Olympiques de Londres, eh bien, a réussi une sacrée performance.
Oui, alors Valérie, c'est pour moi la lanceuse peut-être la plus extraordinaire qui a existé dans le lancer du poids féminin. Elle est à 1,40 m du record du monde, mais elle a dominé sa discipline et depuis les contrôles de dopage, ça a été la seule pratiquement à tenir la route et toutes les autres étaient larguées. Et je dois dire que je suis très très fier du travail qui a été fait avec elle, parce qu'en fait, si on n'a pas pu battre un record du monde, c'était légitime, on a eu une moyenne des compétitions durant toutes ces années à peu près à égalité. Et elle a été entre 2010, où j'ai pris l'entraînement, dont on disait qu'elle était saturée, qu'elle était finie en fait, qu'elle avait été déjà blessée plusieurs fois. On a fait un travail de reconstruction qui lui a permis de gagner quand même après les Jeux Olympiques, effectivement, après les Jeux de 2008, les Jeux de 2012. Ensuite championne du monde en 11 et 13, et puis championne du Commonwealth, médaillée d'argent à Rio, médaillée de bronze après avoir fait deux enfants à Tokyo, donc l'année passée, donc une carrière assez exceptionnelle. Et avec elle, j'ai bouclé la boucle du lancer du poids, d'entraîner un des hommes peut-être les plus doués de sa génération, Werner Günther, et Valérie Adams, ça a été pour moi homme, femme, dans la même discipline, deux géants, qui s'entendent d'ailleurs extrêmement bien, avec lesquels j'ai encore aujourd'hui le meilleur des contacts.
Mais votre carrière de coach de lancer du poids, mon cher Jean-Pierre, n'est pas finie, parce que vous allez la reprendre maintenant avec moi pour le défi.
C'est jamais fini.
Bon, bah Florian, voilà, on vous laisse. Nous, pendant les informations de 11h, on va se déplacer un petit peu. Ben là, je vois qu'il y a un terrain avec de l'herbe et on va pouvoir réaliser le défi. Bon, il faudra juste que j'enlève mes échasses parce que sinon, avec les talons, ça ne va pas le faire. Hein.
Visiblement mieux. Oui. Visiblement mieux.
Bon, Jean-Pierre, faites attention parce qu'elle a l'habitude de lancer les boules dans les fenêtres. Hein, donc, cassez pas les carreaux.
L'air de jeu. Rediffusion.
Bon Claire, bravo pour le défi. J'ai reçu les photos que je vais vous diffuser dans quelques instants. Je vous rappelle que notre émission, on peut la suivre en vidéo. On vous montre de jolies photos de Cressier, malheureusement, avec pas un ciel bleu aujourd'hui, mais ça ira quand même. Alors Claire, après votre défi, ça fait ce bruit-là ?
Eh ben non, je n'ai rien cassé parce qu'on s'est mis dans l'herbe, là, à côté de la place du village. Mais bon, je ne tire pas non plus à 20 mètres. Hein. Je ne sais pas exactement à combien j'ai lancé cette boule de pétanque, mais en tout cas, c'est vrai, je le reconnais, Jean-Pierre Heger est un magnifique professeur, entraîneur, coach. Il m'a bien coaché, donc les prochains Jeux Olympiques, peut-être que je vais m'inscrire, on verra. Oui, l'espoir fait vivre. En tout cas, merci infiniment pour ce défi. C'était vraiment sympa de vous écouter. Je me mets dans la peau des sportifs qui ont suivi vos conseils. C'est vrai que vous avez cette faculté de nous mettre à l'aise et de nous expliquer vraiment judicieusement ce qu'on doit faire.
Ben, c'est mon travail. Vous faites bien le vôtre, moi je fais le mien. Non, c'est vrai que c'était intéressant de vous voir lancer parce que il y a longtemps que j'avais plus travaillé avec quelqu'un à ce niveau-là, mais à ce niveau donc du débutant finalement, c'est vrai parce que c'est pas évident du tout. Mais ce que vous avez compris en deux temps et trois mouvements, c'est que on doit pousser le poids et non le lancer. Même si on dit lancement du poids, en réalité c'est un pousser. Les Allemands font la différence, ils disent Stoßen. Et puis on dit Werfen pour le disque, pour le javelot, etc. Mais il y a effectivement une technique à adopter où le coude doit passer derrière le poids pour amener la force dans l'engin et non passer dessous comme le font les lanceurs en général et qui serait en fait une inefficacité incroyable.
Je crois que maintenant, au lieu de jouer à la pétanque, je m'en vais carrément lancer les boules, ça sera plus simple. Ça faisait à peu près combien de... Est-ce qu'il y a eu un mètre quand même avec la boule que j'ai lancée?
Ben, je pense que vous avez lancé 5-6 mètres, quelque chose comme ça.
Ah ouais, quand même.
Ah, quand même, merci, ouais, là, je suis surpris.
Ouais. Vous avez vu ça? Ah ouais,
élan, et sans élan.
Et sans élan, alors moi je suis surprise en moi-même. Hein.
Oui, oui.
Alors justement, on a évoqué avant les informations de 11h, eh bien c'est un grand nom suisse hein, de lancer du poids, c'est Werner Günther.
Oui, en fait, alors ça c'est pour moi le modèle, c'est celui qui m'a permis de faire un maximum d'expérience, et pas seulement dans la discipline du lancer du poids, mais aussi et surtout dans la préparation physique. Donc vous savez, les athlètes sont les gens physiquement... En général, on dit les mieux préparés pour ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire la puissance en l'occurrence, cette puissance qu'on va retrouver dans tous les sports athlétiques. Et avec Werner, pendant 12 ans, j'ai pu, à Macolin, en ayant un instrument de travail sur place magnifique naturellement, j'ai pu m'occuper de lui parallèlement à mon travail. Hein. C'était du bénévolat en fait, hein, que la direction m'a permis de l'entraîner régulièrement. Et je dois dire que j'ai appris mon métier de préparateur physique avec lui. Il a été la continuation de ce que j'ai fait moi, des expériences positives et négatives que j'ai faites. Et j'ai pu, à travers lui, très disponible, toujours disposé à changer de méthode. Quand vous êtes champion du monde et puis que l'entraîneur vient et puis vous fait travailler différemment, tout d'un coup, vous pouvez vous dire « mais arrête, je sais comment faire maintenant, non ?» Il savait que le corps est une baie d'adaptation et qu'à force de faire la même chose, on finit par ne plus progresser. Et c'est valable aussi dans le domaine du développement de la force particulièrement, où on a pu expérimenter des méthodes d'entraînement qui aujourd'hui font encore référence au plus haut niveau.
Est-ce qu'il y a un sportif suisse de haut niveau que vous auriez voulu coacher, entraîner, donner des précieux conseils ?
Non, si je vous dis Federer, vous trouverez ça normal. C'est vraiment un sportif pour lequel j'ai une admiration inconditionnelle. C'est vrai, tout le monde aurait aimé l'entraîneur, mais je suis encore plus fier, je vais vous dire, c'est que j'ai formé son préparateur physique, Pierre Paganini, qui a passé 2 ans à Macolin, qui a été dans mon groupe donc d'athlétisme, qui a appris son métier en fait chez moi, et puis qui a su transposer tout ce savoir et savoir-faire dans le monde du tennis, où il n'était pas vraiment spécialiste, et puis avec les résultats quand même qu'on connaît, avec Federer, mais aussi avec d'autres, Wawrinka, et d'autres athlètes encore, dont je peux avoir oublié le nom maintenant. Mais là, je pense qu'un préparateur physique qui est resté fidèle pendant... écoutez, il m'a téléphoné à 12 ans et demi, donc pas lui, il avait 12 ans et demi, mais Federer, et il m'a dit, j'ai un garçon, il s'appelle Roger Federer, sur quoi je lui ai dit, tu peux me dire aussi Roger, mais il m'a expliqué pourquoi c'était Roger, et finalement, ce garçon de 12 ans et demi au centre des Cubes Blancs, dont il m'a dit qu'il serait un jour le Günther du tennis, donc champion du monde, eh bien, voyez-vous, le pari était lancé. Et c'est avec plaisir que j'ai suivi à travers lui cette progression de Federer. Et croyez-moi, dans le monde du tennis, j'ai jamais eu l'impression que je devais aller prêcher la bonne aventure. Pierre l'a fait largement.
Nous allons jouer ici en direct dans quelques minutes à l'un de nos jeux. Mais pour l'heure, eh bien, place à la musique. Et la musique que vous aimez, c'est sur RTM.
Alors, après ce bruit-là, place à ce bruit-là. Voilà, c'est mieux, hein, le petit bruit.
Oui, c'est mieux.
Et on retourne en Italie avec Fuoco nel Fuoco et Ross Ramazzotti à l'instant sur RTN. Passez un bon dimanche.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Et on retrouve notre lanceuse de cailloux, Claire, du côté de Crécy.
Oui, ici c'est aussi Fuoco nel Fuoco parce qu'on met le feu à la place du village, mais dans le bon sens du terme, hein, rassurez-vous. C'est en rire et bien sûr avec les invités qui sont autour de nous. Comment ça va? Et vous avez vu ça? Quelle ambiance, hein? C'est un petit peu comme quand il y a des grandes compétitions.
C'est
hein
terrible, ouais, c'est terrible.
Et on va faire connaissance avec Patricia. Bonjour Patricia, comment ça va?
Bonjour Claire, mais je vais bien.
Alors vous venez des Verrières?
Mais oui.
Et vous êtes venue jusqu'à Crécier?
Mais oui, en train.
Vous ne conduisez pas?
Non, je ne conduis plus.
D'accord, alors train, bus, enfin...
Oui, funambule, funicule.
Vous avez dû vous lever tôt?
Mais oui.
Mais ça vous fait plaisir d'être avec nous?
Je suis souvent levée tôt.
D'accord, et puis vous venez comme ça un petit peu voir comment ça se passe sur le terrain. Est-ce que vous connaissiez Jean-Pierre Heger?
Je le connaissais, mais en photo.
Voilà, maintenant vous le voyez en vrai.
Exactement.
Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment très 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 gentil. Hein.
Tout à fait.
Il n'a pas la grosse tête, hein, et puis, il dit que vous êtes un peu gaga.
Un peu gentil.
Ah d'accord, mais gentil, gentil, voilà. Vous allez jouer avec nous, et quel jeu va vous être proposé? Le voici, le voilà.
L'air de jeu, le blind test.
Alors le blind test, eh bien j'ai choisi des chanteurs qui ont été des sportifs et qui, par la force des choses, ont dû arrêter leur carrière dans le monde du sport pour justement se consacrer à la chanson. On va écouter un premier extrait et je vais vous demander dans quel sport ce chanteur s'est-il illustré, enfin a-t-il pratiqué. Écoutez déjà le chanteur. Downtown Ville Américaine.
Facile avec la voix, là.
Ouais, mais bien sûr, il est québécois. Et puis, oui, il est beau, effectivement.
Il était.
Alors, oui, non, il est toujours beau, mais malgré les années, il est comme le bon vin, il se bonifie avec l'âge. Vous me dites?
Rock voisine.
Effectivement. Et c'est vrai que c'est suite à une blessure au genou, à l'âge de 18 ans, qu'il a dû mettre fin à sa carrière. Il a fait ensuite de la télévision, il a joué également dans des séries télé comme Lance et Compte. Et puis en 89, il a connu le succès dans le monde de la chanson avec Hélène. Mais après ce jeu, on écoutera dans son intégralité cette chanson de rock voisine d'Arlene. Attention, voici maintenant le deuxième chanteur. Alors dans sa jeunesse, dans quel sport ce chanteur, allez, je vous dis qu'il est espagnol, a-t-il évolué?
Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les âmes.
Ça, il sait parler aux femmes, hein. C'est un flatteur. Ouh là 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 là.
Nous les hommes.
Ah, ils sont plus beaucoup à nous dire des choses comme ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames.
C'est mitigé, là, hein, quand même.
Vous êtes d'accord avec moi, ou bien?
Tout à fait, tout à fait.
Alors, est-ce que vous avez reconnu l'artiste?
Julio Iglesias.
Oui, mais quel sport a-t-il pratiqué? Avant d'être victime d'un accident grave de voiture, il a dû arrêter, mais il a quand même joué jusqu'à l'âge de 19 ans dans un célèbre club en Espagne. Espagne? Foot? Oui, mais effectivement, il a joué comme gardien. Il était d'ailleurs dans la réserve du Real Madrid. Attention, c'est bien parti. Quel sport ce chanteur a-t-il pratiqué? Et c'est en 1991 qu'il a entamé une carrière de chanteur. Écoutez.
De Paris ou d'ailleurs.
Ah là, je vois votre sourire.
Je dois avouer que je le préfère chanteur que joueur de...
Destination ailleurs, c'est le titre de cette chanson. Bon, moi, j'aime bien dans les deux. autant dans le sport que dans le dans la chanson. Alors, vous me dites.
Yannick Noah.
Oui.
Oh bah, c'est à sans faute. Bravo.
Mais bravo.
Bravo. Ouais.
Ouais. Bravo. 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 En tout cas, vous n'êtes pas venu pour rien. Hein.
Non, je suis pas venu pour rien.
Et ben voilà, vous repartez. Alors, moi, je me tourne vers vous. Vous aimeriez pas vous mettre à chanter, Jean-Pierre?
Non, vraiment pas.
Il y avait Jean-Pierre François à l'époque, hein, qui s'était.
Oui,
mis,
bien sûr, Jean-Pierre François.
J'ai plus la voix.
D'accord. Alors, ben voilà, Yannick Noah, hein, qui s'est reconverti dans la chanson, ça lui réussit plutôt bien.
Tout à fait.
Après, on a ben, Julio Iglesias, hein, le football. Lui, le charmeur de ces dames.
J'avais oublié.
Et puis, ben, Rock Voisine, avec le hockey sur glace. Ça, vous n'avez jamais pratiqué?
Oui, alors oui, j'ai pratiqué le hockey sur glace.
D'accord.
J'ai pratiqué le hockey sur glace chez les Young Sprinters, j'avais 14-15 ans. Mais figurez-vous, et ça c'est, il faut le dire, c'est toute une génération qui en a pâti. Il y avait tellement de monde, parce que l'équipe Fagnon des Young Sprinters était tellement bonne à l'époque qu'il y avait autant de juniors qui étaient passionnés. Et il y avait tellement de monde qu'on s'entraînait une fois toutes les deux semaines.
Ah ouais, quand même.
Toutes les deux semaines. Et comme il fallait bien faire des matchs, on faisait que des matchs. Donc, on jouait une fois toutes les deux semaines. Vous imaginez, il n'y a eu que deux joueurs qui ont joué en première division, en Liga, à cette époque-là. C'était un dénommé Marcel Naip, qui était le gardien de l'équipe. Et puis, Gégé Chevalet, qui habitait Fontaine, si je ne me trompe pas, qui habite peut-être encore là. Et ce sont les deux seuls joueurs neuchâtelois, à ma connaissance, qui ont progressé, en fait. Donc, en général, il faut dire, il faut s'entraîner pour être à la pointe. Hein. Si on peut jouer une fois toutes les deux semaines, on n'a aucune chance.
En tout cas, bah, vous avez vraiment évolué dans tous les sports. C'est impressionnant. On va justement écouter Rock Voisine avec cette chanson « Darlene ».
Sur ta photo, un peu blême, je nous vois. En tandem, ta main d'aller dans la mienne.
Le tombeur de ces dames, Rock Voisine à l'instant. Et on va retourner à Cressier, où on s'est sans doute éclaté sur ce titre, Darlene de Rock Voisine.
Effectivement, et c'est vraiment une matinée mais conviviale. Ça fait plaisir de voir des gens avec le sourire. Et c'est vrai que ça nous avait manqué hein, pendant deux ans, ben, l'air de jeu. C'était sympa aussi dans les studios, mais c'est vrai que ce contact direct avec les gens, c'est vraiment agréable. Et puis un invité de marque hein, qui est d'une gentillesse extrême. Et c'est bien évidemment hein, notre coach. On va peut-être l'embaucher chez nous à Irten, parce que peut-être qu'on aurait besoin aussi d'être un petit peu coaché. Et c'est Jean-Pierre Heger. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin, Jean-Pierre Heger.
J'ai juste une petite chose à vous dire, Claire. C'est oui. J'étais en train de diffuser les photos. Puis il y en a une, vous avez pris une très jolie photo avec Jean-Pierre. Vous êtes tous les deux debout. Il fait juste 80 cm de plus que vous. Hein.
Oui, donc j'ai enlevé mes échasses. Donc voilà, je suis à pieds nus à côté de Jean-Pierre. Mais vous mesurez combien?
Je mesure encore 1m92, je pense. Mais rassurez-vous, j'ai deux petits-fils qui mesurent 2 mètres et 1,97. Donc j'ai de quoi de...
De quoi Ah ouais, d'accord, ils ont de qui tenir aussi. Oui, alors au moins de mes 1m60, puis en plus avec l'âge, on rapetissit. Enfin, bref, mis à part ça, 1m58, on passe toujours un bon moment. Voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes, si je vous demande, un souvenir particulier qui est resté gravé dans votre mémoire et qui est drôle en plus?
Oui, il y en aurait quelques-uns, c'est vrai. Mais il me vient à l'esprit maintenant, c'était le travail que j'ai fait avec Mathias Sempach, le roi de la lutte. Alors, il faut que je vous raconte cette histoire de la fête fédérale de lutte de 2013 à Burgdorf, où Mathias a gagné d'une façon magistrale en gagnant ses 6 combats, en tombant en finale sur un athlète qui était de 40 kilos plus lourd que lui, qui l'a mis sur le dos, donc, alors qu'il pouvait faire match nul. Et là, il s'est passé une chose assez extraordinaire. Bien sûr, moi, comme son préparateur physique et un peu mentor, je suis descendu de la tribune sur le terrain pour le féliciter. Et puis, j'ai rien trouvé de mieux que de lui envoyer un coup de poing dans la poitrine. Et puis à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais véritablement déchiré ou probablement un ligament au niveau de l'épaule, un tendon, si bien que j'ai téléphoné à mon chirurgien qui m'avait opéré exactement une année avant, qui était le docteur Zumstein de Berne. Je lui ai téléphoné, j'ai dit « Mathias, est-ce que tu es libre ces prochains jours ?» Puis il me dit « Pourquoi ?» Et j'ai dit « Pour opérer l'épaule droite après la gauche, pour retendre les câbles. Hein, » C'était simplement retendre les câbles, parce que je ne peux plus soulever mon bras. J'ai tapé un peu trop fort dans la poitrine de Mathias. Et puis voilà, et je me suis fait opérer le jeudi. Donc 5 jours après, je passais sur le billard pour me faire opérer l'épaule droite. Voilà. Mais j'hésite aujourd'hui de donner des coups de poing pour féliciter quelqu'un. Je préfère serrer la main.
Oui, heureusement que vous avez fait ça avec moi aussi. Hein.
Ah ben c'est sûr, ça c'est sûr. Oui, ça c'était pour l'anecdote.
Et puis, est-ce que vous avez une anecdote? Ben oui, avec Valérie Adams, hein, vous nous racontiez aussi avec les réseaux sociaux que ce n'était pas triste.
Valérie, elle était naturellement accro des réseaux sociaux. Elle avait, je ne sais pas, des centaines de milliers d'amis, ou de millions même d'amis. Et puis, elle avait une habitude de nous photographier, quelquefois de nous filmer surtout, lorsqu'elle nous faisait faire des exercices ou des danses particulières. Tout d'un coup, j'avais des messages qui me venaient d'Australie ou je ne sais où, des quatre coins du monde, pour me demander si c'était comme ça que je préparais Valérie pour les Jeux Olympiques. C'était assez drôle, mais elle était capable de tout, dans ce domaine-là en tout cas, elle était capable de tout. Non, je dois dire qu'avec Werner aussi... J'ai eu des moments extraordinaires. Je vous donnerai par exemple les championnats du monde d'athlétisme en 1987 à Rome. Il avait la qualification le matin et puis la finale à 6h, à 18h le soir. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'évite qu'il ne dorme trop entre deux. Et je suis allé dans sa chambre pour un peu m'entretenir avec lui. Pas directement le laisser éveiller, mais en tout cas de faire en sorte qu'il ne tombe pas dans un sommeil profond à ce moment-là. Et là, c'est moi qui me suis endormi. C'est moi qui me suis endormi. Et c'est lui qui a subi mes ronflements, si bien qu'il n'a pas dormi. Moi, j'ai bien dormi et puis il est devenu champion du monde.
Et comme quoi, hein, ça tient à quelque chose, à un fil finalement. Eh bien, on va passer un petit peu de musique et puis ensuite, il y aura une question pour vous qui avez écouté attentivement cette émission ce matin. Vous allez pouvoir jouer avec nous par téléphone dans quelques minutes.
L'air de jeu, rediffusion.
Puis elle n'a pas fait de carton dans un verre ou un carreau de Cressier avec son défi. Merci pour les photos encore. Hein. D'ailleurs, on les a diffusées largement si vous suivez cette émission en direct vidéo sur notre site internet rtn.ch. Voilà Claire, on revient vers vous, donc à Cressier, pour la question pour nos auditeurs du dimanche matin.
Oui, effectivement. Alors, hein, nous avons avec nous ce matin Jean-Pierre Heger, qui a été entraîneur national du lancer de la Fédération Suisse d'athlétisme. Il a également...
coaché Claire pour apprendre à tirer une boule de pétanque.
Oui, mais aussi dans les sports collectifs, comme à l'Olympique de Marseille, l'équipe de Grasshopper ou les skippers de l'équipe Alinghi, hein, lors de la Coupe de l'Amérique. Mais la question que l'on va vous poser, eh bien, elle a trait au monde de la lutte. On en a parlé tout à l'heure. Hein, vous avez entraîné un lutteur, hein, qui est devenu lutteur, roi de la lutte.
Oui, roi de la lutte. Le roi de la lutte de 2013 à Burgdorf.
Voilà, alors qui est ce lutteur qui a été donc reconnu? Et d'ailleurs, cette discipline, hein, le roi de la lutte à la fête fédérale de lutte et des Jeux alpestres à Burgdorf, il faut dire que ça a lieu tous les 3 ans. Hein.
Tout à fait.
Alors, quel est le nom de ce sportif? Vous nous le donnez au 032 756 0120. Alors, on le disait, hein, vous avez aussi entraîné des équipes de sport collectif, comme par exemple, eh bien, l'Olympique de Marseille. C'est pas rien quand même.
Non, c'est pas rien, ça aurait pu être même magnifique, ça aurait pu être une aventure magnifique si j'étais tombé peut-être dans un milieu un petit peu plus normal, avec des gens peut-être plus constructifs que destructifs. Et je l'ai regretté, j'ai encore rencontré mon ami Yves Marchand, qui était le président du club la semaine passée. On a passé un bon moment ensemble et puis j'ai toujours dit, je regretterai une chose dans ma carrière sportive, c'est de ne pas avoir pu achever un rêve que j'avais avec Yves, de faire de cette équipe vraiment l'équipe numéro une en France. Il y avait tout pour le faire, à mon avis. Mais quelquefois, voyez-vous, il faut tomber sur les bonnes personnes.
Mais c'est l'entourage aussi, quelquefois.
Oui, c'est l'entourage qui peut faire beaucoup. Et là, je n'ai pas été gâté. On m'avait averti, mais hélas, trop tard. Donc pour moi, j'ai tenté le coup. Je me suis dit, jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à m'entendre avec les personnes avec lesquelles j'ai collaboré. Il n'y a pas de raison que ça ne joue pas. Eh bien, il y en avait quand même. Il y en avait quand même, et puis il faut l'accepter. C'est c'est peut-être un peu la page noire de ma carrière sportive, mais j'aurais appris beaucoup de choses.
Mais finalement, hein. Et nous avons avec nous Émilie. Émilie, bonjour.
Bonjour Claire.
Comment allez-vous?
Mais bien, et vous?
Mais ça va très très bien. Je vous l'ai dit hein, ce matin, une matinée sportive, musclée. Vous habitez où, Émilie?
Bro-Plambeau.
À Bro-Plambeau, est-ce que vous êtes une sportive dans l'âme ou est-ce que vous pratiquez un sport?
Avant, j'ai fait beaucoup de gym, de l'athlétisme. Gym
De l'athlétisme?
Oui.
Et quelle discipline?
J'entraînais les jeunes enfants.
Ah, mais c'est cool, dans un club, vous étiez où?
Oui, dans une société de gym, mais sur le Coton de Vaud.
D'accord, mais ça c'est aussi important de, je ne sais pas ce que vous en pensez Jean-Pierre, ben justement les jeunes comme ça, de leur inculquer des valeurs, est-ce que c'est justement très jeune qu'on peut un petit peu les façonner?
Moi je pense que, je dis toujours, je répète mille fois, tous les jeunes devraient faire trois disciplines, trois branches principales à l'école, c'est l'activité physique, donc le sport, la musique et puis le théâtre. Comme branche principale, on faciliterait considérablement l'apprentissage de toutes les autres branches.
Et oui, vous n'avez pas tort. Alors, Émilie, on écoute votre réponse. Qui était ce roi de la lutte en 2013?
C'était Mathias Sempach.
Effectivement, bravo, bravo. Vous restez avec nous, on va prendre vos coordonnées. Et puis, dans un instant, bien, on va surtout s'intéresser à votre livre, Jean-Pierre Heger, « The Way to Excellence ». Vivre ses rêves, c'est beaucoup plus facile.
L'air de jeu avec Claire et Florian.
Et gentiment, on va conclure cette émission ce matin en direct de Crécy.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Il y a eu un bon bol d'air frais, en tout cas aujourd'hui avec Jean-Pierre. Là, c'est très passionnant ce qu'il racontait tout à l'heure et c'est son vécu avec le sport qui est incroyable.
Alors effectivement, c'est assez incroyable et c'est vrai que c'est un homme très intéressant. On pourrait l'écouter pendant des heures. Je crois qu'on va refaire une émission parce qu'il est assez incroyable. Et puis, il y a son épouse aussi qui est là, Béatrice. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez vraiment un homme formidable. Hein.
Oui, je crois vraiment que j'ai beaucoup de chance.
Alors, je le disais tout à l'heure, vous aimez aussi le sport et puis vous allez nager, mais tous les jours.
Oui.
Sauf aujourd'hui.
Ah, j'irai certainement cet après-midi.
Et vous allez par n'importe quel temps?
Presque.
Même en hiver?
En hiver.
Le lac, il a combien en hiver?
En hiver, il peut avoir 4, 3.
Mais vous mettez un maillot de bain ou vous mettez une combinaison?
Non, je mets un maillot de bain, des chaussures, des gants et un bonnet.
Elle va finir fin d'us une fois un jour. Hein.
Ah là, ah ouais. Bon, en tout cas, bravo. Est-ce que vous prenez exemple sur votre femme, Jean-Pierre?
Pas du tout, j'adore l'eau thermale.
Alors vous êtes comme moi, moi j'aime bien me baigner, il faut que l'eau elle ait au moins 28 degrés. Alors on va évoquer maintenant, merci hein, Béatrice pour ce témoignage. On va revenir sur votre livre hein, que vous avez écrit, The Way to Excellence, vivre ses rêves. Bon, c'est quoi? C'est la route de l'excellence, hein, on pourrait le traduire comme ça. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire cet ouvrage et de quoi ça parle?
Bon, la motivation, elle est venue, elle est extrinsèque parce que c'est les autres, en fait, qui m'ont demandé. Mon entourage m'a souvent dit, mais pourquoi tu écris? Tu ne laisses pas quelque chose derrière toi. Ça ne suffit pas de récolter des médailles et tout, mais aussi d'expliquer comment tu l'as fait, comment tu l'as construit. Alors, en fait, dans ce livre, il y a deux parties. Une partie qui est le chemin de l'excellence. C'est ce chemin que j'ai enseigné comme formateur des entraîneurs à Macolin pendant longtemps, la façon, la stratégie pour avoir des chances de réussir ses projets. Et j'ai calqué ça un peu sur les expériences que j'ai faites beaucoup dans les sports d'équipe. On n'a pas beaucoup parlé d'Alinghi ce matin. Alinghi, c'est peut-être l'équipe en tant que telle, ou l'entreprise même, qui m'a appris ce qu'était véritablement un projet d'entreprise. Vous savez, Alinghi, ce n'était pas seulement des sportifs, c'est un bateau, c'est vrai. C'est un équipage, c'est même deux équipages. C'est des constructeurs, donc les techniciens qui construisent le bateau, les voiles. C'est un management avec son marketing, son organisation, son financement, avec des gens extraordinaires, une somme de compétences extraordinaires. Et puis de voir fonctionner une entreprise comme celle-là m'a inspiré pour mettre en place mon chemin d'excellence. Et c'est un petit peu pour moi le modèle de ce que j'ai vécu, que j'essaye de transmettre à toutes les disciplines, dans tous les projets, qu'ils soient individuels ou des projets d'équipe. Et puis j'explique dans la première partie du livre, en fait, j'explique ce chemin à travers les expériences que j'ai faites en sport, bien sûr, sport individuel, sport d'équipe, et puis aussi mes interventions depuis plus de 25 ans maintenant dans le monde de l'entreprise, où on est venu me chercher aussi pour apprendre un peu du sport, qu'est-ce que le sport peut nous amener. Et là, j'ai remarqué que dans le domaine de la, je dirais, le côté énergétique de l'humain, tout son côté motivationnel, le côté mental, le côté émotionnel, qui sont souvent occultés dans le monde de l'entreprise, on peut leur apporter énormément. Et vous savez, quand on parle de coaching, de motivation, on pense toujours au sport. J'ai donné quelquefois des cours avec des éminents professeurs d'université sur ces thèmes-là. Eh bien, voyez-vous, ils prenaient souvent plus d'exemples en sport que moi-même. Donc, vous dire combien le sport est suffisamment imagé pour nous permettre de comprendre bien les choses dans ces activités-là. Donc, ça, c'est une première partie. Dans la deuxième, je voulais laisser en fait une empreinte de tout le travail que j'ai fait dans la préparation physique, notamment, aussi technique, c'est vrai, mais surtout la préparation dans les sports athlétiques, non pas pour faire un livre sur la condition physique, mais plutôt pour retracer un peu les expériences que j'ai faites, bonnes ou moins bonnes, dans ce domaine-là, et dire, voilà, c'est comme ça que j'ai pratiqué. Si ça vous intéresse, vous prenez. Si ce n'est pas le cas, tant pis, il y a peut-être d'autres chemins.
Et puis maintenant, bah, vous donnez des conférences, vous partagez votre savoir, hein, c'est cela.
Maintenant, je fais encore de temps en temps une conférence, un atelier avec des entreprises, des projets sportifs aussi, des formations d'entraîneurs, bien sûr, à l'université et autres. Le monde de l'entreprise est un domaine qui m'a passionné ces dernières années parce que j'ai vu qu'on pouvait, même dans une entreprise, apporter énormément. Et j'en parle dans mon livre et je suis convaincu que le sport peut apporter énormément de messages positifs. Et j'espère aussi peut-être non seulement en entreprise, mais dans la politique, parce qu'actuellement, pas en Suisse, on est encore gâtés, mais quand on voit ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, on se dit qu'avec un esprit sportif, avec des valeurs sportives, on arriverait certainement à résoudre ces problèmes interpersonnels d'ego qui règnent dans ce monde-là.
Mille merci Jean-Pierre d'avoir participé à l'Air de jeu. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, que vous aurez pris du plaisir. Et puis, ben voilà, on a fait plus ample connaissance avec vous. C'était vraiment une merveilleuse matinée, Jean-Pierre.
Je partage. Merci. C'est vrai. Merci.
Merci beaucoup. Et puis merci à toutes les personnes qui étaient là ce matin.
Voilà, il y a une bonne ambiance en tout cas du côté de Cressier comme d'habitude.
Oui, c'était vraiment très très très
dimanche
sympa.
Dimanche prochain, Claire.
Alors, dimanche prochain, on va poser notre table du côté du port de Saint-Aubin. Et puis là, ce sera une matinée policière. On va parler de polar avec Nicolas Feutz et bien évidemment aussi Marc Woltenhauer. La première fois que nous aurons Marc Woltenhauer dans l'émission L'air de jeu. Alors, on va parler un petit peu de ces deux auteurs de polar. Voilà, en tout cas,
des
merci
bisous.
De nous avoir suivis. Gros bisous à tous et à très vite sur RTN. Bye bye, bon dimanche.
À dimanche prochain, merci Claire.